Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manirakiza avec vous. Bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel. C'est lundi, le 30 juillet 2018, sur VOA Afrique. D'abord, les principaux titres. Au Mali, les résultats officiels provisoires attendus d'ici vendredi. L'éventuel second tour est prévu le 12 août.
Le peuple aspire à un changement tant souhaité par le Malien lambda qui veut une situation où aujourd'hui nous vivons dans des situations très difficiles.
Premières élections générales post-Mugabe au Zimbabwe, 23 candidats briguent la présidentielle. Sommet conjoint CDAO et CAC à Lomé sur la lutte contre le terrorisme. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. L'Érythrée et la Somalie renouent avec leurs relations diplomatiques. Une nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre pays de la Corne de l'Afrique.
La Somalie a servi quand même pendant des années de refuge aux dirigeants érythréens et tigréens, donc qui s'opposaient alors au régime Addis Abeba.
Aux États-Unis, de gigantesques incendies en Californie ont fait déjà au moins 7 morts. Et dans la page des sports, vous retrouverez Yacouba Ouédraogo dans 10 minutes, juste après le journal. Au Mali, le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait ce lundi, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Dans une déclaration à VOA Afrique, cet après-midi, le président du pool d'observation du Mali affirmait que les premiers chiffres indiquent que le pays irait vers un second tour. À Bamako, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Jacques Aristide.
Pour les observateurs du POSIM, l'affluence n'était pas au rendez-vous hier dans bon nombre de centres et de bureaux de vote. Dans un entretien à VOA Afrique, le président de ce pool d'observation évoque un taux de participation de 35%. Ibrahima Sango affirme disposer des chiffres pouvant donner une idée des tendances, mais n'en fera pas part maintenant en raison de la loi électorale. Il a toutefois confié à VOA Afrique que tout indique qu'un second tour aura bel et bien lieu. Il est prévu pour le 12 août. Concernant le vote d'hier, les observateurs déplorent les différents incidents qui se sont produits, de même que ce qu'ils appellent des dysfonctionnements et insuffisances. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, affrontait 23 autres candidats, dont Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition. De Bamako, au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Nous y reviendrons, Jacques, dans la seconde partie de cette édition. Clôture des bureaux de vote au Zimbabwe ce soir après la première présidentielle post-Robert Mugabe qui s'est déroulée sans incident avec une participation élevée. Le point avec Nicolas Pinon.
Oui, les Zimbabwéens ont voté en masse pour cette présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. Tout s'est déroulé dans le calme, avec de longues files d'attente dès l'aube devant de nombreux bureaux de vote à Harare. Pour ces scrutins historiques, la participation est élevée, a annoncé à la mi-journée la présidente de la commission électorale, Priscilla Chikumba. 23 candidats sur la liste de départ, dont l'actuel président Emmerson Mnangagwa pour la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Le président Mnangagwa, qui a voté dans sa ville natale de Kwekwe, s'est félicité que la campagne ait été pacifique, tout comme le vote. Son principal adversaire est l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Robert Mugabe avait indirectement à voter pour lui pour battre son ancien parti. Pendant la campagne, l'opposition avait dénoncé les fraudes massives possibles. L'ONU s'était aussi inquiétée des intimidations d'électeurs avant le scrutin, mais elle a aussi salué l'élargissement de l'espace démocratique au Zimbabwe. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour devrait être organisé d'ici le 8 septembre.
Nicolas Pinon, référendum constitutionnel dans les Comores. Les électeurs ont commencé à voter dans un climat tendu, un scrutin que l'opposition a boycotté. Le nouveau texte, si adopté, permettra au président et ancien putschiste Azali Assoumani de se représenter pour un deuxième mandat consécutif. Au Madagascar, les candidats à la présidentielle prévue à la fin de l'année doivent déposer leur candidature entre le 1er et le 21 août. La Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays, rendra publique la liste officielle des candidats au journal officiel de la République au plus tard le dimanche 26 août. Le premier tour du scrutin est prévu le 7 novembre et le second tour le 19 décembre. L'ex-gouverneur du Katanga en RDC, Moïse Katumbi, a officiellement demandé l'autorisation de rentrer au pays Il a sollicité la direction de l'autorité de l'aviation civile pour lui permettre d'atterrir en jet privé vendredi 3 août à l'aéroport de Lubumbashi. Il veut déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. La date butoir est le 8 août. Monsieur Katumbi vit en exil à Johannesburg. Ex-proche du président Kabila, passé à l'opposition en 2015, il a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière et reste également poursuivi pour recrutement de mercenaires. Toujours en RDC, l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, de son côté, a annoncé son retour pour mercredi à Kinshasa en provenance de Bruxelles. Une réunion devait avoir lieu aujourd'hui entre le MLC, son parti, et le gouverneur de Kinshasa. Un sommet conjoint de la CDAO et de la CAC a eu lieu ce lundi à Lomé. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement des deux sous-régions tiennent une rencontre de son genre. Au centre des débats, la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le point de la journée avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Les 26 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre conjuguent leurs forces pour venir à bout du terrorisme et instaurer une paix durable dans les deux sous-régions. En se donnant rendez-vous à Lomé pour la première fois, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, posent un acte en faveur de la paix. Ce sommet conjoint symbolise l'engagement des deux communautés à répondre aux défis sécuritaires de la coopération interrégionale. Pour le président en exercice de la CEAC, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, les menaces sécuritaires transversales commandent les deux sous-régions d'agir de manière concertée et collective. L'Afrique de l'Ouest et du Centre font face à des menaces sécuritaires transfrontalières, y compris le terrorisme, l'extrémisme, les conflits liés à la transhumance, l'insécurité maritime et la piraterie. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations, a indiqué pour sa part Fornia Singbe, le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. En ce moment même, les travaux à huis clos se poursuivent et seront sanctionnés par une déclaration, dite la déclaration de Lomé. Kai Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Le verdict du procès en appel du maire de Dakar, Alifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics, sera rendu le 30 août. Le procureur de la cour d'appel de Dakar, Lansana Diabé, a requis ce lundi la confirmation de la peine prononcée en mars en première instance, soit 5 ans de prison, une amende de 7 622 € à l'encontre de Khalifa Sall. Et un tribunal sud-africain a jugé que l'ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, ne bénéficiait pas de l'immunité diplomatique lors de l'agression en 2017 à Johannesburg d'une jeune femme. Le mannequin sud-africain Gabriella Angels l'accuse de l'avoir frappée avec un câble électrique le 13 août dans un hôtel UP de Johannesburg. Le Conseil de sécurité de l'ONU a retardé ce lundi son plan qui vise à réduire les effectifs d'une mission de maintien de la paix en Somalie. Quelques 1000 soldats de la MISOM devaient quitter le pays d'ici fin octobre. La résolution adoptée à l'unanimité renvoie leur départ à la fin février. Et New York estime que les forces de sécurité somaliennes n'étaient pas suffisamment préparées. La mission compterait alors environ 20 000 soldats. Elle opère sous mandat de l'ONU et reçoit des financements des Nations Unies et de l'Union européenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, ici aux États-Unis, les gigantesques incendies en Californie ont déjà fait au moins 7 morts. 12 000 pompiers s'employaient toujours ce lundi à lutter contre les différents brasiers alimentés par la sécheresse qui ont déjà dévoré des dizaines de milliers d'hectares. Les détails de Raïssa Gironde.
Le nord de la Californie s'embrase. 17 feux de grande envergure au total. Des flammes incontrôlables et une fumée toxique rendant les opérations de secours presque impossibles. 3 pompiers comptent déjà parmi les victimes du brasier. Des renforts envoyés par 13 États sont arrivés sur place. 3 personnes, une femme de 70 ans et ses 2 arrière-petits-enfants âgés de 4 et 5 ans, ont péri lorsque leur mobil-home a été pris par le feu. Dimanche, les restes d'une personne qui avait ignoré les ordres d'évacuation ont été retrouvés dans une résidence incendiée selon les autorités. Dimanche soir, l'incendie de car n'était circonscrit qu'à 17% et s'étendait sur plus de 38 600 hectares selon des données officielles. Au dernier pointage, 38 000 personnes ont été évacuées dans le comté de Shasta. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, y a déclaré l'état d'urgence.
Raissa Gironde, l'Union européenne reprend au Royaume-Uni le commandement d'Atalante. Il s'agit de l'opération européenne de lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique. L'organisation État islamique a enlevé la semaine dernière 36 femmes et enfants de la minorité druze en Syrie, dans la province de Souéida. 30 parmi eux sont toujours détenus. Et le gouvernement japonais a annoncé un investissement de plus de 3 milliards d'euros sur les 30 prochaines années pour installer et exploiter le dispositif terrestre américain d'interception de missiles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco signée Nicolas Pinot.
Le Fonds monétaire international maintient à 1,5% la prévision de croissance économique de l'Afrique du Sud pour 2018. Le FMI prévient cependant que l'économie sud-africaine doit faire face à la hausse rapide de la dette publique et le renflouement des entreprises publiques. La grève d'une partie des pilotes de la compagnie Royal Air Maroc continue ce lundi, provoquant l'annulation d'une dizaine de vols. Une partie des pilotes a entamé une grève le 20 juillet dernier pour protester contre leurs conditions de travail. Ils exigent une revalorisation salariale. La RAM perdrait ainsi 20 millions de dirhams par jour. Autre compagnie aérienne dans l'actualité, Air Sénégal. Après deux semaines de suspension, l'un des deux ATR a repris vendredi du service vers Ziguinchor en Casamance. Cette immobilisation forcée des deux appareils de la jeune compagnie avait suscité de vives inquiétudes dans un pays déjà échaudé par les expériences avortées d'Air Sénégal International et de Sénégal Airlines. La République du Congo réapparaît dans l'agenda du conseil d'administration du FMI. C'est finalement vendredi 3 août que sera examinée la situation du pays et éventuellement le vote d'un soutien financier. Ce soutien est très attendu au Congo dont la dette s'élève à 9,5 milliards de dollars. Alors que le pays peine à mobiliser des recettes, la dernière mission du FMI à Brazzaville avait conditionné son soutien à des réformes audacieuses et immédiates.
Et nous ouvrons directement votre page des sports ce soir, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien, on connaît la date des élections à la Fédération béninoise de football.
Rendez-vous le 25 août prochain pour un combat fratricide entre Bruno Didavi, tête de liste du programme Nouvel Élan, et Martirin de Chacus, patron de la liste Football Nouveau Départ. Pour une deuxième fois après l'échec de 2013 face à Augustin Awanvuebla, Bruno Didavi voudrait toujours prendre son destin en main et s'assumer. Pour ces élections, il bénéficie du soutien de son ex-challenger qu'il a battu en 2013.
Au Maroc, Benzarti devrait 50 000 dollars au WAC.
Et oui, en poste au Wydad à Casablanca, Faouzi Benzarti a décidé de s'en aller pour prendre en main le poste de sélectionneur de la Tunisie. Dans des propos rapportés par la presse locale, le président du WAC, Saïd Nasri, a expliqué que le technicien devra verser une pénalité de 50 000 dollars, soit deux mois de salaire, en contrepartie au club marocain. Cette disposition est contenue dans son contrat.
Et Riyad Mahrez de retour à l'entraînement dans la semaine, Yacouba.
Bonne nouvelle, le milieu de terrain algérien de Manchester City, touché hier à une cheville, va reprendre l'entraînement cette semaine et pourrait être disponible pour le Community Shield face à Chelsea dimanche prochain, d'après l'annonce faite par son nouveau club. L'international algérien de 27 ans a passé des examens qui n'ont révélé aucune blessure sérieuse, selon Manchester City. Mahrez a subi une faute du jeune joueur du Bayern Munich, Chris Richard, à l'occasion d'un match amical à Miami, qu'il avait laissé longtemps au sol avec une cheville gauche douloureuse.
Enfin, Lemar veut gagner la Ligue des Champions avec l'Atlético.
Le milieu de terrain champion du monde avec la France a mis la barre de ses ambitions haut avec son nouveau club, l'Atlético Madrid, qu'il a présenté aujourd'hui. « Je vais donner tout ce qui m'est possible pour aller le plus loin et gagner cette Ligue des Champions, dont la finale se tient le 1er juin 2019 au Wanda Metropolitano, l'antre des Colchoneros », a déclaré l'ancien monégaste. Formé à Caen, Lemar, 22 ans, a passé 3 ans sur le rocher entre 2015 et 2018, avant de rejoindre cet été l'Espagne contre 72 millions d'euros, où il retrouve deux coéquipiers en bleu, Antoine Griezmann et Lucas Hernandez.
C'était l'espoir de Yacouba Ouedraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manirakiza, de retour avec vous. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les Maliens ont voté ce dimanche pour choisir leur prochain président. Le gouvernement s'est félicité de la bonne tenue du premier tour. Les premiers résultats sont attendus entre demain et mercredi, tandis que les résultats provisoires officiels seront connus au plus tard vendredi. Jacques Aristide est à Bamako. C'est lui, notre envoyé spécial. Voici son reportage.
Les Maliens sont donc dans l'attente alors que se poursuit le décompte des voix. Les militants des candidats à la présidentielle, comme ici au QG de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, sont eux aussi impatients. La confiance est toutefois de mise. Kansoutou Sidibé est membre de l'équipe de campagne.
Oh que oui, je suis confiante. Parce que j'ai confiance en mon président et je sais ce qu'il vaut et ce qu'il a fait dans le pays. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et les Maliens savent, avec tous ceux qui sont allés dire en Europe, dire que le président ne travaille pas, j'ai confiance en Ibeka. Et je sais que les Maliens aussi, ils ont confiance en cet homme.
À deux pas d'ici, même ambiance, bon enfant, les militants et partisans du candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, affichent la même confiance. Nuhum Togo est directeur de communication de l'équipe de campagne.
Vous avez la confiance que nous entoure, c'est la confiance du peuple malien, parce que le peuple aspire à un changement, tant souhaité par le malien lambda, qui veut une situation où aujourd'hui nous vivons dans des situations très difficiles, en termes de sécurité, en termes de bien-être, en termes de l'école, en termes de la société, en termes de l'emploi. Tout le monde souhaite que ça change.
Le déroulement du scrutin a été perturbé dans un nombre important de bureaux de vote sur les 23 000 recensés. Et maintenant, les observateurs électoraux surveillent de près le dépouillement. Les membres du pool d'observation du Mali sont toujours à pied d'œuvre. Ibrahima Sango, président du POSIM.
Dans la nouvelle loi électorale, on a introduit une disposition majeure qui est le fait que l'ensemble des bulletins de vote et le procès verbal de dépouillement des opérations électorales, des résultats, sont signés par l'assesseur de la majorité et l'assesseur de l'opposition. Bon, même si on a noté des choses, si on a des résultats, on ne pourra pas les communiquer parce que la loi électorale dit que l'administration territoriale doit publier les résultats provisoires et puis après la Cour constitutionnelle va publier les résultats définitifs. Donc nous on a des tendances, on a des trucs, mais on n'est pas habilité à les communiquer.
Vous voyez donc des tendances. Va-t-on vers un second tour?
On croit.
Les observateurs notent également que les électeurs ne se sont pas beaucoup mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Les résultats sont attendus dans le courant de cette semaine avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM, c'est VOA Afrique 24h sur 24.
L'Érythrée et la Somalie ont signé un accord portant sur l'établissement de relations diplomatiques après plus d'une décennie de tensions. Irénée a joint Roland Marchal du Centre des recherches internationales et spécialiste des questions de la Corne de l'Afrique. Pour lui, c'est une belle occasion pour ces pays de construire un nouvel ordre régional avec en toile de fond de grands défis à relever. Suivez.
Et une chose, ça va être pour ces États de retrouver leur marque. Une autre, ça va être de reconstruire un ordre régional qui soit réaliste et en même temps qui fasse un peu place aux égaux des uns et des autres.
Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle étape des bouleversements positifs que connaît la Corne de l'Afrique quand on sait que l'histoire récente de ces trois nations est entremêlée?
Oui, l'histoire de ces trois nations est entremêlée. La Somalie a servi quand même pendant des années de refuge aux dirigeants érythréens et tigréens, donc qui s'opposaient alors au régime à Addis Abeba, dans la deuxième moitié des années 70 et dans les années 80. Bon, après, c'est devenu plutôt l'inverse dans les années 90 à cause de la guerre civile en Somalie, et puis ensuite dans la division de la guerre civile entre ceux qui étaient soutenus par l'Éthiopie et ceux que mécaniquement l'Érythrée a soutenus. Donc cette période semble achevée, je dis bien semble. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que oui, d'un certain côté, cette période s'achève et on voit mal, elle ne pourra pas se prolonger sur les mêmes bases. Et d'un autre côté, le nouvel ordre régional à construire, il reste encore à construire. Et donc, il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur la capacité des uns ou des autres à faire des compromis.
À vous entendre, c'est une nouvelle collaboration qui sera basée sur la prudence.
Il ne faut pas se cacher que le chemin va être difficile et le chemin va être long, sauf à vouloir faire de grandes déclarations qui, si vous voulez, auront beaucoup de problèmes à se matérialiser parce qu'il y a des problèmes à régler. Et en même temps, si ces problèmes ne sont pas réglés, on aura assez rapidement de nouveau des amertumes. Et puis ensuite, vraiment des acrimonies et puis peut-être des oppositions.
Et à quoi peut-on s'attendre alors dans ces conditions aujourd'hui concrètement ?
Il y a plusieurs tests qui méritent d'être attentifs. Le premier, c'est ce qui va se passer dans les élections éthiopiennes dans 2 ans. Si le Premier ministre est capable de mener la coalition pouvoir à une victoire, mais que ce soit pas une victoire totale, avec une voix laissée à l'opposition, bon, ça sera un énorme pas en avant. Et ensuite, dans la question régionale, ça va être assez rapidement comment est-ce que l'Érythrée et l'Éthiopie arrivent à trouver des politiques économiques convergentes qui permettent à l'Érythrée de sortir d'une situation économique qui est quand même très grave.
Roland Marchal, en France.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, l'opérateur Orange, le principal opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès Internet, subit le courroux de ses clients suite à la suppression du cumul des passes Internet. Ce qui, au départ, était une simple vague de contestation, s'est transformé en quelques jours en un vaste mouvement de boycott. Les clients qui payaient 1500 francs CFA pour cumuler le pass Internet de 3 gigaoctets à un autre d'une validité d'une semaine devront maintenant débourser jusqu'à 7000 francs par semaine, soit 1000 francs par jour, pour avoir accès à Internet dans les mêmes conditions. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
C'est une véritable vague de contestation et de critiques que subit l'opérateur de téléphonie Orange, surtout auprès des jeunes Sénégalais qui se sentent lésés par la nouvelle formule de connexion Internet. Binta est une jeune étudiante. Elle trouve le boycott légitime.
Tous les jeunes n'ont pas les mêmes revenus. 1500 francs pour avoir de la connexion pour une semaine, c'était vraiment très bénéfique pour eux, pour être en contact avec le monde extérieur et tout. Donc si aujourd'hui on enlève cette possibilité d'avoir de la connexion pour une semaine, disons que ça les coupe carrément du monde extérieur. Donc je pense qu'on devrait, même si ils se sont rendus compte à la fin que c'était juste une faille, que c'était pas normal, ils devraient quand même essayer de proposer un service pareil qui permettra aux jeunes d'avoir assez de connexion Internet pour une semaine.
Au-delà de cette nouvelle formule de connexion, c'est le système d'exploitation d'Orange qui est remis en cause. Abdou Thiam, technicien informatique, estime que la société de télécommunications abuse de ses clients aux revenus modestes.
On est colonisé par Orange. Je ne sais pas qui est derrière. On ne peut pas expliquer totalement ce qui se passe ici avec Orange. Chaque fois, ils nous volent, chaque fois, ils font des milliards de bénéfices. Alors qu'au Sénégal, les gens n'ont pas quoi manger. Tu achètes un crédit de 1000 francs, tu fais un pass Internet, ça prend juste 24 heures. Est-ce que c'est anormal? Parce que ton argent, tu l'as acheté. Ça doit être illimité. Bah, on ne doit pas te forcer pour utiliser ton crédit ou ne l'a pas utilisé.
Rosalie est une jeune juriste. Elle estime que pour faire plier Orange, il faudrait d'abord briser sa mainmise sur les réseaux télécoms.
Je pense que ça n'aura pas un aussi grand impact, sans pour autant vouloir être négatif, ça n'aura pas un aussi grand impact que voulu en tout cas. Orange a un monopole incroyable par rapport aux autres soi-disant concurrents comme Tigo et Expresso. Et Orange a une base clientèle tellement énorme que quelques Sénégalais qui décident de ne plus acheter certains passes parce qu'ils coûtent cher ou parce qu'ils ont une durée limitée ne peuvent pas forcément atteindre leur objectif ou en tout cas impacter d'une manière conséquente Orange et son business.
Au Sénégal, un énième combat est mené contre les abus de la société leader en téléphonie et accès Internet. Cette fois, le mouvement semble avoir une plus grande portée car des milliers de jeunes ont manifesté leur courroux suite à la suppression du cumul des passes Internet qui leur permettait d'avoir un accès à Internet à moindre frais. Malgré cette vague de contestation, Orange n'a pas encore répondu aux revendications de ses clients, se contentant juste d'un tweet pour prendre acte des doléances. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une conférence sur l'afrofuturisme s'est tenue récemment à Lomé au Togo. Il s'agissait de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique dans divers domaines, notamment la question architecturale de l'Afrique. Quel avenir pour les villes africaines? La réponse dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
L'Afrique calque son développement urbain sur des modèles occidentaux. Il est très rare de voir dans de grandes agglomérations africaines des bâtiments qui sont inspirés de l'architecture endogène du continent. Cet état de choses est dénoncé par l'architecte urbaniste Roland Akpedjekonu, qui estime que l'Afrique doit redéfinir sa propre identité architecturale dans ce 21e siècle, tout en ayant son patrimoine culturel comme axe central.
Dans les pratiques d'aménagement du territoire, nous devons appliquer les principes qui nous viennent de nos patrimoines, de notre identité. Donc la ville africaine du futur doit ressembler foncièrement à l'Afrique, c'est-à-dire puiser des matériaux qui servent à construire dans nos villages, qui servent à construire nos cases. C'est aussi utiliser les formes qui sont utilisées dans l'aménagement de notre cadre de vie par nos aïeux. C'est prendre en compte l'importance que nous avons toujours donnée à l'environnement construit en matériaux locaux. On économise beaucoup. En termes de santé, on est en meilleure forme lorsqu'on vit, par exemple, dans une maison construite en terre, parce que le ciment, il dégage du CO2. Qui n'est pas bénéfique aux poumons.
Le ministre togolais de la Culture regrette que la colonisation ait façonné la physionomie de l'Afrique. Il est temps d'avoir recours aux connaissances endogènes pour donner un nouveau visage au continent noir, pense Guy Madje Lorenzo.
L'Afrique n'a pas débuté au moment des indépendances. Nous avions des structures sociales, nous avions des empires, nous avions des cultures qui nous ont permis de pouvoir passer à travers les siècles. Si ce n'avait pas été la colonisation, je suis intimement persuadé que l'Afrique aurait un autre visage au jour d'aujourd'hui. Alors que nous prenions conscience que c'est à travers nos valeurs, nos traditions, nos cultures que nous pouvons puiser l'essentiel pour bâtir notre avenir.
L'idée selon laquelle vivre dans une maison construite en terre est synonyme de pauvreté doit être révolue. Kossi Assou, président de l'association Treka.
Il est question de revenir à nos fondamentaux, à nos connaissances endogènes, de les reparcourir parce que nous les regardons avec un regard méprisant. Il faut enlever ce mépris, revisiter nos connaissances endogènes pour les mettre au goût du jour, afin que ces connaissances nous aident à construire l'avenir, un avenir serein et digne.
Il faut reconnaître que dans la capitale togolaise, quelques initiatives sont prises ici et là pour construire des bâtiments en terre rouge avec des toits en paille améliorée et des décorations d'intérieur en bambou. Kai Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. À la mise en onde, Joselle Morissa. À la console, high-tech, Eric Manilakiza. À la présentation, avant de vous quitter, ne pensez pas que vous êtes petit pour changer quelque chose. Si vous doutez de vos capacités, faites une petite expérience. Eh bien, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. On reste connecté sur Facebook et sur votre site internet voafrique.com pour plus d'actualités 24 heures sur 24. Excellente suite des programmes sur VOAfrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma.
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.